2. Le P-code. Après un tour interminable de demandes de renseignements aux uns et aux autres, j'ai appris que 3 bateaux allaient partir pour des voyages de 3 ans. Le Diable et sa mère, la Bonne Bouche et le P-code. J'ai jeté un œil insatisfait au Diable et sa mère, j'ai grimpé sur la Bonne Bouche et j'ai tout de suite senti qu'il ne me plaisait pas. Enfin, j'ai longuement examiné le P-code avant de conclure que c'était le bateau qu'il nous fallait. Je suppose que vous avez déjà vu des bateaux pittoresques, typiques de différentes régions du monde, mais je suis certain que vous n'avez jamais rien vu d'aussi extraordinaire que ce vieux bateau. Le vieux P-code avait été décoloré, repeint puis à nouveau décoloré par un nombre incalculable de périples, à tel point qu'il semblait avoir servi à faire la guerre. Il était évident que ces mâts d'origine avaient dû être cassés dans des combats violents au large du Japon, car on les avait reconstruits à la façon japonaise. C'était un navire ancien, plutôt petit. Ses ponts antiques étaient usés et ridés. Et sur cette pièce de musée de plus d'un demi-siècle, on avait ajouté des éléments surprenants qui racontaient sa vie rythmée par de sauvages aventures. Le vieux Peleg, l'un des principaux propriétaires du P-code, était aujourd'hui à la retraite. C'était lui qui avait décoré l'antique navire de manière étrange et primitive. Tel un cannibale, le navire affichait fièrement les restes de ses ennemis. Les longues dents de cachalot servaient à l'amarrer et les boyaux à l'encorder. À la place d'un traditionnel gouvernail à tourniquet, sa barre était taillée d'une seule pièce dans la mâchoire inférieure d'une de ses victimes. L'homme à la barre, face à l'océan déchaîné, se sentait comme un conquérant maîtrisant son cheval par les mors. Ce navire m'a impressionné car il avait une vraie noblesse et il s'en dégageait de la mélancolie. Alors que je cherchais quelqu'un pour dire que je souhaitais m'engager, je n'ai d'abord vu personne. J'ai remarqué une tente sur le pont, sans doute installée temporairement le temps que le bateau devait passer au port. Un homme était assis à une table à l'intérieur. Il n'avait rien de particulier. Il était enveloppé dans un épais manteau marron. Sa peau était tannée et ridée comme celle de tous les vieux marins. Ses yeux, à demi fermés, laissaient deviner le temps passé à fixer l'horizon pendant des heures interminables de navigation et dans plus d'une violente tempête. Ses rides lui donnaient un air sévère. J'ai malgré tout essayé de m'imposer en l'interrogeant. « Ai-je l'honneur de parler avec le capitaine du bateau ?»« Et si c'était lui, qu'est-ce que tu lui demanderais ?»« J'aimerais embarquer. Tu aimerais. Je vois que tu n'es pas d'ici. Tu n'as pas l'air des gars de Nantucket, » a-t-il affirmé, me jugeant d'un coup d'œil perçant à mon allure et à mon accent. « Tu as déjà été sur des bateaux comme celui-ci ? » ?»«
Non, jamais. » »«
Tu n'es jamais parti sur un baleinier ?»«
Non, jamais, mais j'apprendrai vite, parce que j'ai de l'expérience. J'ai été matelot sur des bateaux de la marine marchande. »«
La marine marchande ! Que le diable l'emporte ! Ne prononce plus jamais ces mots devant moi, sinon tu vas recevoir de sacrés coups dans le derrière !» Pourquoi veux-tu partir sur un baleinier? As-tu été pirate? Tu n'aurais pas volé ton dernier capitaine par hasard? Tu n'as pas tué un autre matelot au large?
Face à tant d'accusations, il faut avouer que j'ai été surpris. Mais je me suis défendu. J'ai protesté, affirmant mon innocence. J'avais senti sa méfiance envers les étrangers dès ses premières remarques. Avec ses accusations, elle se confirmait.
Monsieur, « je veux tout simplement savoir ce que pêcher la baleine signifie et je veux voir le monde. »«
Tu veux aller voir les baleines ? » ?»«
As-tu rencontré le capitaine Akab ?»«
Qui est le capitaine Akab ?»«
C'est bien ce que je pensais. »« Le capitaine Akab est le capitaine de ce bateau. »«
Mais ce n'est pas vous le capitaine de ce navire ? » ?»«
Je me suis donc trompé. »«
Veux-tu savoir à qui tu parles ?»«
Tu parles au capitaine Peleg. »
Avec le capitaine Bilbad, nous nous occupons à armer le P-code pour le voyage.
Nous préparons tout ce qui est nécessaire et c'est nous qui choisissons les hommes. Cela dit, si tu veux absolument savoir ce que pêcher la baleine signifie, tu peux en avoir une idée avant même d'embarquer. Il te suffit d'aller voir le capitaine Ahab. Tu pourras constater qu'il n'a plus qu'une jambe.
Vous voulez dire qu'il a perdu l'autre à cause d'une baleine ?
Tu as tout compris. Approche. Viens près de moi. Je vais te dire deux mots.
Elle a été dévorée, broyée et mâchée par le plus monstrueux des cachalots.
Écoute, mon garçon, je vois bien que tu ne parles pas le langage des marins. Es-tu sûr d'avoir déjà pris la mer ? Je vous ai dit que...
Tais-toi.
Essayons de nous comprendre. Maintenant que je t'ai dit ce qui est arrivé au capitaine Ahab, veux-tu toujours partir ?
Oui, monsieur.
Tu as dit que tu voulais voir le monde, n'est-ce pas ? Alors va jeter un œil à l'horizon et dis-moi ce que tu vois.
Je ne comprenais pas pourquoi il me posait cette question, mais j'ai obéi. Je suis sorti de la tente et j'ai marché jusqu'au bout du pont. Là, j'ai regardé au large, à l'horizon, en me demandant ce qu'il voulait savoir.
« Alors, qu'as-tu vu ?»
m'a demandé Peleg à mon retour. « De l'eau, et peut-être un peu de pluie qui s'annonce. Es-tu prêt à passer le Cap Horn pour voir ce que tu viens d'observer ? Ne peux-tu pas voir le monde d'où tu es ?»
J'ai alors expliqué à Peleg que je voulais pêcher la baleine et que j'irais pêcher la baleine. Je lui ai dit que le Pequod était le bateau qui me plaisait et j'étais sincère.
Me voyant si décidé, il a fini par accepter de m'engager.
Il m'a même proposé de signer tout de suite et m'a accompagné dans la cale.
Là, il m'a présenté le capitaine Bilbad, lui aussi en partie propriétaire du Pequod. Ils ont négocié le pourcentage qu'ils allaient me donner. Bilbad, qui avait la réputation d'être avare, voulait me donner le 700e. Tandis que Peleg, qui était visiblement plus généreux, tout au moins plus juste, essayait de m'offrir plus. Les deux vieux capitaines se sont tellement disputés que cette discussion mouvementée a failli mal tourner. J'ai pensé un moment à m'enfuir. Peleg passait son temps à dire des jurons, pendant que Bilbad le réprimandait. Moi, je savais que l'on n'avait pas de salaire sur un baleinier et que je ne partais pas à la pêche à la baleine pour faire fortune. L'équipage, y compris le capitaine, touchait une part sur le bénéfice. Cette part était calculée en fonction de l'importance des tâches de chacun. Et moi, je n'étais qu'un simple matelot, débutant sur un baleinier, avec une expérience sur les bateaux de marine marchande dont il ne fallait pas parler. La réputation d'avarice de Bilbad était bien fondée. Personne n'aurait pu affirmer le contraire. La démonstration était faite. Heureusement, Peleg, qui criait plus fort, a eu le dernier mot. J'ai réussi à signer pour la 300e part. Avant de les quitter, j'ai annoncé à Peleg qu'un de mes amis voulait embarquer lui aussi. Le propriétaire du Pequod était intéressé. Nous avons donc convenu que je viendrai avec lui le lendemain. Je m'y attendais. Quand nous sommes arrivés sur le Pequod avec Quickegg tôt le matin, les deux vieux capitaines ont d'abord jugé Quickegg à son apparence. La veille, bien entendu, j'avais fait exprès de ne pas leur dire un mot sur l'allure surprenante de mon ami. N'avais-je pas été capable de dépasser mes peurs et mes préjugés ? Si moi, j'avais pu le faire, grâce aux qualités indéniables de Quickegg, Peleg et Bilbad ne seraient-ils pas capables, eux aussi, de l'accepter tel qu'il était et non tel qu'il paraissait ?
« Moi, je n'engage pas de cannibale !» a tout de suite dit Bilbad.
Après avoir lancé quelques grossièretés, Peleg s'est laissé aller à sa curiosité. Pensant que Quickegg n'allait pas comprendre, il ne s'est pas adressé directement à lui, mais il m'a demandé à moi.
« Ce grand sauvage, sait-il au moins se servir d'un harpon ? A-t-il déjà tué une baleine ? C'est le meilleur ! Il a tué tellement de baleines que je ne pourrais pas les compter. »
De toute évidence, Quickegg ne pouvait pas argumenter comme je l'avais fait la veille. Cependant, je savais qu'il maîtrisait mieux le harpon que notre langage et qu'il pouvait le démontrer à sa manière. En effet, énervé par les préjugés de ces hommes et par leur méfiance, il n'a pourtant rien montré de sa colère. Sans dire un mot, Quick-Egg a bondi sur une pirogue, il a équilibré son harpon et enfin il a dit
« Tu vois le petit goutte goudron, là, sur l'eau ? Toi, bien vois-lui !»
Puis il a visé et a lancé le harpon qui est passé juste au-dessus du chapeau de Bilbad. Le vieux capitaine, effrayé par la proximité de l'arme, s'est aussitôt réfugié dans la cale. Il n'a donc pas pu voir le harpon qui filait droit à travers les ponts pour piquer sur la goutte de goudron qui brillait. Quant à Peleg, lui, il n'a rien perdu du spectacle.
« Alors ?»
a interrogé Quick-Egg en regardant fièrement Peleg.
« Toi, imagine goutte goudron œil baleine. Hop ! Harpon dans œil baleine. Hop ! Baleine mort !»
Peleg n'a pas attendu un instant de plus pour rappeler Bilbad sur le pont.
« Bilbad, reviens !»
a hurlé le capitaine Peleg.
« Il nous faut ce coco, je veux dire ce quick-od sur un de nos baleiniers. »«
Quick-Egg, j'ai corrigé. »«
Eh bien, quick-od, tu vas signer immédiatement et je vais te donner le 90e. C'est plus que ce que je donne au harponneur de Nantucket, tu peux me croire. »
Même s'il continuait à l'appeler quick-od, Peleg était visiblement très content d'engager un harponneur aussi précis. Quick-Egg était sans aucun doute le meilleur harponneur que lui et Bilbad aient rencontré dans toute leur longue vie de chasseurs de baleines. La preuve, Bilbad n'avait pas protesté lorsque Peleg avait proposé le 90e, une part énorme.